Et on ressent ça. On ressent quelque chose, tu comprends? C'est pas Stam. On ressent maman, même si nous, notre corps, d'accord, et notre esprit, on le ressent pas, mais bémet que notre neshama, elle est... Ça y est, on va recevoir la Torah. On est très, très émus de ça. C'est un moment... C'est un moment très spécial, mamash. Alors, la parachat, cette semaine, on commence un nouveau livre. C'est le Chumash Bamidbar. Celles qui ont le livre avec les explications du Likutei Halakhot de Rabbi Nathan, je vous promets, asseyez-vous. Chaque explication, elle est encore plus belle que la deuxième. Ça veut dire... Je me disais ce matin, mais sur quoi je vais leur parler tellement j'avais envie qu'on passe des jours et des jours à parler que de ça, tellement c'est beau. Bon, alors j'ai dit, on va commencer par le premier. Alors comme ça, donc, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a parlé en ces termes à Moshe, dans le désert de Sinaï, d'accord, dans la tente d'assignation, le premier jour du mois, du second mois, dans la deuxième année, après leur sortie d'Égypte, d'accord. Et ici, Rabbi Nathan, il vient et il dit... Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert de Sinaï. Il veut qu'on se concentre sur cette histoire que Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert de Sinaï. Qu'est-ce que c'est cette histoire du désert de Sinaï? Et il dit comme ça qu'on a reçu la Torah dans le désert. C'est quoi le désert? C'est un endroit qui est Efker. C'est quoi Efker? C'est un endroit qui est donc délaissé, abandonné. C'est déjà bizarre parce qu'on aurait pu dire quand même Hachem, si on réfléchit bien, il aurait pu trouver un endroit un peu plus sympa pour nous donner la Torah. Je ne sais pas, un beau jardin, tu vois, des belles fleurs, des beaux arbres. Mets-nous un cadre, quoi. Tu vois, quand Hachem, il a créé l'homme et la femme, d'accord, c'était un super cadre. Il y avait le Gan Eden, il y avait, c'était waouh. Là, c'est, tu viens nous donner la Torah. Et le monde entier, il a été créé que pour la Torah. Tu nous donnes la Torah où? Dans un endroit... Il n'y a rien. C'est efker. Ça veut dire c'est délaissé, c'est abandonné complètement. Alors, il vient, il explique comme ça. Bon, j'espère que je vais réussir à l'expliquer comme j'ai réussi à le comprendre hier. Sans la Torah, le monde entier semble abandonné, tel un désert. Et chacun peut y dominer. Chas v'shalom. Ça veut dire que si le monde, d'accord, n'a pas la Torah, il est considéré en réalité comme un désert. Parce que le monde entier, il a été créé que pour la Torah. Pour que le Ham Israël, d'accord, il puisse récupérer cette Torah et accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, si maintenant, le monde qui a été créé, il a été créé donc pour la Torah, et que nous, on ne prend pas cette Torah, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir autre chose qui va nous dominer. D'accord? Parce que la Torah, c'est quoi? C'est un cadre. D'accord? La Torah, c'est un cadre, en fin de compte, c'est un cadre de vie. Tu dis, ça, tu fais comme ça, ça, tu fais comme ça, ça veut dire, ça nous recadre, parce qu'on avait dit la semaine dernière que l'être humain, il a besoin d'être cadré. Si t'es pas cadré, ben, tu vas dans tous les sens. D'accord? Donc, il te dit, car en réalité, qu'il s'agisse du monde en son principe, avant le don de la Torah, ou bien de l'homme en particulier, tant que l'un ou l'autre ne se comporte pas convenablement et qu'il n'applique pas les principes de la Torah, chas v'shalom, alors ils sont tous deux comme délaissés, sans maître. D'accord? Donc l'homme, il représente le monde. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme, il représente le monde entier. Et chaque être humain, on a notre monde. Parce que ce que moi, je vis, c'est un monde. Ce que toi, tu vis, c'est un monde. Ce que toi, tu vois, c'est un monde. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi un monde. D'accord? Donc, si maintenant, dans l'être humain, d'accord, il n'a pas justement cette Torah et le monde n'a pas cette Torah pour nous cadrer, alors on est ce qu'on appelle efker. D'accord? On ressemble, ça veut dire, à un désert. À un désert qui est abandonné. Après, il continue, il dit comme ça. Car il n'y a pas plus grand abandon qu'un état où l'on occulte sa fin et sa destinée. Ce qui adviendra dans le monde futur après sa disparition. Donc là, il vient, il nous dit, c'est quoi Efker, en fait? Efker, ça veut dire, on a dit, c'est un endroit abandonné. Il te dit, qu'est-ce que c'est en réalité la plus grande Efkerout, la plus grande abandon, dit comme ça, d'accord? C'est quoi? C'est d'oublier qu'il y a un monde futur. Il n'y a pas une plus grande Efkerout de soi-même que d'oublier qu'il y a un monde futur. C'est-à-dire qu'il y a ce monde, d'accord, mais il ne faut pas oublier, et je ne dis pas ce monde-ci, Olam Hazeh, parce que vous vous rappelez, on avait étudié une Torah il y a quelque temps, où justement Rabbeinu il nous disait, il y a, les gens parlent du Olam Hazeh, mais en fait on ne sait pas ce que c'est que l'Olam Hazeh. Il dit, il y a un monde. Ok, bon, on ne va pas entrer là-dedans, sinon on va s'écarter. Mais en tout cas, si, ça veut dire, si Béhémeth, tu oublies qu'il y a un monde futur, il n'y a pas plus grand efker que toi. Après, il continue comme ça, hein, d'accord ? Car on ne peut échapper à la mort, de quelque manière que ce soit. Et même lorsque Machiav viendra, très vite de nos jours si Dieu veut, l'homme sera également contraint de mourir. Comme Rabbé nous le dit, d'accord ? Quoi ?
On allait mourir quand
Machiav
va venir.
Comme, justement, comme il dit Rabbeinu, d'accord, il le déclara d'une manière très ferme, même le Machiav, il va mourir. Et non pas comme le prétend le monde, qu'avec la venue du Machiav, la mort disparaîtra. Et il te dit, c'est faux. Ça veut dire que quand Machiav, il va venir, Bezrat Hashem, alors il va y avoir un temps. Selon la Gemara, c'est 40 ans. Il y a plusieurs avis, d'accord ? Mais Rabbeinu, il a opté sur 40 ans, l'avis où il y a 40 ans, d'accord ? Il dit, il va y avoir comme ça un temps de 40 ans où Machiav va être là, on va être là, il va y avoir un dévoilement du monde, on va mourir, et ensuite, il y aura Kriyat HaMetim, d'accord ? La Kriyat HaMetim, ça veut dire on va tous se ressusciter, d'accord ? Mais
les morts, ils seront ressuscités 40 ans après ou...
40 ans après.
Ah, voilà, maintenant. Hein. Non, mais alors, attends, ça veut dire que si Machiav. Attends, je viens. Donc, si Machiav il vient et qu'il attend 40 ans, tu meurs. Et les enfants, on ne fait plus d'enfants.
Là,
quoi non, non.
Il y a des enfants.
Oui, et alors ?
Alors, tous sont morts à un moment, une deadline ?
Oui, il y a une deadline.
Ah ouais.
Bon, mais c'est pas sur ça que je vais le... Eh ben, ok, on meurt avant, mais on se réveillera. Mais justement... Oui, mais tu t'en fous de ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que, d'abord, écoute une chose. Même que je veux pas rentrer trop maintenant là-dedans, mais on s'en fout en réalité. Parce que c'est ce qu'il te dit, ici, Rabbeinu. Il te dit, sans un homme qui est mafkir et tatsmo, ça veut dire un homme qui se délaisse, abandonne. D'accord ? Un homme qui, ça veut dire, ne se tient pas. Il n'y a pas pire que ça, parce que ça veut dire que tu as oublié qu'il y a un monde futur. Ce monde-ci, c'est pourquoi ? C'est pour profiter du monde futur.
Pour préparer, non ?
Oui, c'est pour le profiter. C'est un petit passage, c'est un petit tunnel. D'accord ? Ça veut dire, c'est une petite station dans ta vie, mais ta vie, ça veut dire éternelle. Ici, c'est une station. Donc, si maintenant, toi, tu viens ici et que... Tu commences, d'accord, à mettre toute ta tête dans ce monde. Et vas-y, je fais les trucs et je kiffe. Mais j'oublie mon essentiel, qu'il y a un monde futur. Donc, en réalité, Rabbeinu, il dit, il n'y a pas plus grand abandonné que ça. Il n'y a pas plus grand efker que ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il te dit, car on ne peut pas échapper à la mort, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire, même pour toi qui va dire, non, mais tu sais quoi, je suis sûre, là, on m'a dit, il y a Machiav demain, je fais ce que je veux. Pas du tout. De toutes les façons, il faudra mourir. Donc, ce n'est pas la peine de croire que tu dis « Allez, je m'en fous ». Pas du tout. Parce que de toute façon, on ne s'en fout pas. Quand Machiav va venir, on va avoir une telle vérité devant nos yeux qu'on va se sentir un peu mal. On va se sentir naze complet. Parce que là, il y aura une vérité devant nous qu'on ne pourra plus dire « Non, c'est chez Jean, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris ». Non, il n'y a pas. C'est là. Et tu le verras et tu es gros comme un truc. Donc, il te dit « On n'a pas le choix ». Alors, il te dit comme ça. Donc, si maintenant, d'accord, c'est le cas... et qu'on ne peut pas éviter la mort, d'accord ? Et que par la suite, le monde soit infini éternel, n'y a-t-il pas plus grande capitulation que de céder aux caprices de son cœur, délaissant ainsi l'immortalité qui nous reviendrait ? Ça veut dire ici, il vient et te dit, mais tu te rends compte ? Est-ce que tu peux imaginer que pour un plaisir d'un instant dans ta vie, d'accord ? Tu as capitulé, en fait, pour ton monde futur. C'est-à-dire, tu t'es dit, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Pour mon kiff, là, maintenant, ben, je suis prêt à tout abandonner. Ça veut dire, il n'y a pas un plus grand efker que toi. Ça n'existe pas. Parce que tu as eu juste ce qu'on appelle shrirut libi. Ça veut dire, tu as donné libre cours, d'accord, aux passions, à tes pulsions de ton cœur. Et donc quoi? Ça veut dire que quelque part, eh ben, automatiquement, tu abandonnes en fin de compte toi-même. Tu viens et tu dis, j'abandonne mon monde futur. C'est dingue, c'est bête. D'accord? Après, il continue comme ça, hein, et il dit, car Rabbeinu l'a déclaré, d'accord? Cela a été consigné dans le livre Sichot Aran. Pour celui qui veut chercher dans Sichot Aran, c'est les propos en français, numéro 51. La renonciation et l'abandon ne doivent pas faire partie de notre service divin. Nous pouvons être des gens convenables sans glisser dans l'abandon ou la résignation. D'accord? Alors, juste pour que. Salut Myriam, la tzaddika qui vient d'Yerushalayim. Assis-toi, ma Myriam. Bon, il est un peu long, donc on ne va pas le faire tout en entier, mais il dit comme ça, regarde ce qu'il dit Rabbeinu, d'accord? Donc celles qui ont le livre, vous étudierez après, plus tout ça. Il dit comme ça, ce monde-ci n'est rien en lui-même. Il a pour, c'est-à-dire, ce monde ne représente rien, d'accord, de par lui-même. Il n'a pour seul et unique but de nous emmener à la vie éternelle. C'est pour ça qu'il existe ce monde. Si tu oublies ça, c'est quoi? C'est comme si tu dis, j'ai passé en fait ma vie en tant que spectatrice, je suis passée à côté en fait. Tu es passée à côté de ta vie. Et il te dit comme ça, peu importe si nous avons de l'argent ou pas, car la vie sur Terre se déroulera de la même manière. Ça, c'est hyper important. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? Rien qu'on court derrière l'argent et on court la pernasse. Et il te dit, de toute façon, que tu aies de l'argent ou pas, ta vie, elle va se passer d'une manière ou d'une autre, avec les mêmes histoires. Pourquoi? Parce que tu aies de l'argent ou pas, tu vas te stresser, tu vas t'énerver, tu vas t'angoisser, tu vas courir, tu vas être déçu, tu vas pleurer, tu vas rigoler, c'est pareil. C'est pareil. C'est, ne crois pas que parce que tu as fait la course à l'argent toute ta vie, d'accord, que tu vas être mieux. Et d'ailleurs, on peut même se poser une question, avec toute cette course à l'argent, d'accord, qui existe depuis que le monde existe, où Rabbeinu, il pose cette question, où est tout cet argent? On devrait normalement marcher, d'accord, sur des monceaux de liasses d'argent, avec toutes ces fortunes qui ont été amassées. Rien que Moshe Rabbeinu, où est sa fortune? Avraham, où sont toutes ces fortunes? Parce qu'aujourd'hui, d'accord, tu dis, y a des grandes fortunes, mais c'est rien, on est des pauvres en vrai, d'accord, à côté de nos avotes, tellement c'était énorme. Où sont toutes ces fortunes? Donc tu vois bien que les gens, d'accord, on passe notre vie à courir l'argent, le truc, l'argent, il te dit que tu aies de l'argent ou pas, la vie sur la terre, elle se déroulera de la même manière. Et là, il te dit un truc, poc. En effet, ce monde-ci, donc là, il te dit, c'est olamazé. D'accord? Il ne te parle plus d'un monde. Ce olamazé. D'accord? Ce olamazé nous trompe totalement. Ce monde-ci nous trompe totalement. Pourquoi? Parce que le olam, le monde, c'est que de l'illusion. Chacun, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, chacun selon son monde. Toi, tu as tes illusions. Toi, les tiennes, moi, les miennes. Chacun, il a son. Donc, chacun, en réalité, il va faire ses fantasmes, ses histoires. Il va créer sa propre histoire. Et donc, ce monde-ci te trompe. Alors, il te dit, il nous fait miroiter de soi-disant gains, mais finalement, il n'en reste rien, puisque l'expérience a montré que la plupart des gens qui étaient occupés pendant des jours et des années à travailler ou à faire du commerce s'aperçoivent lorsqu'ils font leur compte qu'il ne leur reste rien dans les mains. Parce qu'il ne te restera que ce qu'Hachem veut bien te laisser. Et même s'il arrive que quelqu'un amasse de l'argent, on l'arrache à sa fortune. D'accord? Bon, je ne continue pas, mais il est très beau. Peut-être qu'on le fera une autre fois en entier. Donc ça, c'était pour vous dire quoi? Que comme il a déclaré donc dans le Sichot Aran 51, d'accord, la renonciation et l'abandon ne doivent pas faire partie de notre service divin. Nous pouvons être des gens convenables sans glisser dans l'abandon ou la résignation. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il te dit comme ça, regarde. Il y a ce qu'on appelle, d'accord, l'abandon de soi-même, la hefkerut par rapport à nous-mêmes, et il y a ça veut dire l'afkir et tatsmenu, comme on dit le matin, vers Hachem. Ça veut dire se dire, oui, tu. L'afkir et atzmenu, ça veut dire je m'abandonne à Kadosh Baruch Hu. Ne, il y a une différence qui est très dac entre ça. Ça veut pas dire, bah tu sais quoi, je me laisse aller et je m'en fous et on verra bien. Ça, ça veut dire t'abandonner complètement. Après, qu'est-ce qu'il te dit, Sir Rabbeinu ? Il te dit, Bémet, que si tu tombes dans l'abandon et la résignation, d'accord ? En réalité, il n'y a pas plus grand abandon que ça, parce que tu ne peux pas, Bémet, servir Hachem si tu es dans ce qu'on appelle le yush, comme une sorte de désespoir. Rabbeinu, il dit, il n'y a pas de désespoir. Jamais tu abandonnes. Jamais tu laisses. Toujours tu essayes, toujours tu as cette volonté. Rappelez-vous encore et encore et encore, Rabbeinu il a dit, l'essentiel c'est la volonté. La volonté est aspirer d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Essayez encore et encore et demandez à Akadosh Baruch Hu. Comme là on va recevoir la Torah, on l'a dit, on le répète. Je veux recevoir toute la Torah. Je veux faire toutes les mitzvot. Je veux avancer, je veux apprendre, je veux faire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être un être qui va... Je ne veux pas... Je veux pas me prendre et me dire, tu sais quoi, je me jette en l'air et je m'en fous de moi et j'explose. Non, tu t'abandonnes pas. C'est très fin tout ça. Jamais on va abandonner et jamais on va se résigner. Toujours encore, on essaye et encore on essaye. Et il dit comme ça. Donc là maintenant, il vient t'expliquer c'est quoi cette notion. Bien que chez moi, il ne s'agisse ni de renonciation ni d'abandon. Car l'abandonné véritable... C'est au contraire celui qui ne s'en remet pas totalement à Kadosh Baruch Hu. Et ce que le monde considère comme de la résignation, même cela, nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons être des gens convenables sans pour autant tomber dans la négligence. Ici, il vient et qu'est-ce qu'il nous dit comme ça ? Il nous dit, fais attention, parce que d'un côté, tu dis, je veux faire le Avodat Hashem, d'accord ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas vouloir faire Avodat Hashem ? Tu vas avoir les petites claquettes qui vont venir, d'accord, pour te bloquer, t'empêcher, bon. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas dire, tu sais quoi, j'abandonne. C'est pas pour moi. J'y arrive pas. Donc, fais attention à ça. Il te dit, ça, ne fais pas ça. Ne te laisse pas avoir par ça. Parce que tu peux, en réalité, tant que tu as cette volonté véritable et que tu essayes et que tu aspires à ça, tant que tu restes comme ça, ça veut dire que quelque part, tu tiens toute la Torah en toi. Parce que la Torah, c'est toi. Elle est en toi, la Torah. Toute la Torah, elle est en toi. Donc, tant que toi, tu ne te dis pas, ben, tu sais quoi, j'abandonne, je laisse tomber, j'y arrive pas. Tant que tu ne te dis pas ça et que tu continues encore à vouloir, et à... tu restes un être convenable et respectable. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, j'y arriverai pas, je laisse tomber, d'accord ? Comme par exemple avec un enfant ou n'importe quoi, tu dis, bah, laisse tomber, il ne va pas y arriver. Non. Encore et encore, et on essaye, et je veux. Tu veux, c'est tout. Désire la chose, désire-la ardemment, et tous les jours, tu demandes chez Hachem, ne te dis pas, tu sais quoi, je suis lourde à la fin, je demande toujours la même chose. On s'en fout. Désire ardemment, je veux te servir. Je veux la Torah, je veux les mitzvot. Je ne lâcherai pas jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je n'abandonnerai pas cette volonté. Je veux mon shalom bayit. Pourtant, Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va te dire ? Tu t'es vu ? Quel shalom bayit ? C'est la catastrophe. Ouais, t'es divorcé. De quoi tu parles ? Je veux !
Donc alors attends, ça veut dire que dans... Que ça soit n'importe quel problème, dans une situation où tu crois que c'est mort... Et tu dis je veux.
C'est jamais mort.
T'es sûr que c'est mort ?
C'est jamais mort.
Ah oui, c'est jamais mort.
C'est jamais mort. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Hachem, chez lui, il n'y a pas c'est mort. Hachem, il ne va jamais renoncer. Tu te rends compte, Akadosh ?
C'est impossible de l'impossible.
Est-ce que tu te rends compte si Hachem. Regarde, tu sais quoi ? Vois l'histoire du monde. Franchement, l'histoire du monde, on aurait pu dire 1000 fois c'est mort. Mais chez Hachem, il n'y a pas. Il ne va jamais se désespérer de nous. Il ne va jamais dire, laisse tomber ça là, c'est mort. Jamais. Il va te prendre, il va dire, tu sais quoi ? Elle s'est abandonnée, je vais la prendre, je vais la plonger dans un truc qu'elle va avoir un coup de jus. Tu comprends ? Donc, il n'y a pas. Toi, tu désires, tu demandes, tu fais. Et laisse faire. Hachem, c'est lui qui va décider, il aura le dessus sur tout.
Tu vois, par exemple, il y a un truc qui nous montre qu'il n'y a pas de désespoir, c'est que chaque jour, quand tu dis que tu... Chaque jour, c'est un nouveau jour. Donc, ça veut dire que tu es comme une nouvelle personne, que tu...
Te renouvelles.
Donc, forcément...
Mais le problème, il est là, hein. Il ne se renouvelle pas, heureusement.
Si chaque jour est un nouveau jour, c'est qui te donne chaque jour la vie? C'est Dieu. Donc, chaque jour, il te dit, je crois en toi, je te donne une... Puisqu'on dit, je te fais confiance. Je te remercie que tu me fais confiance quand tu dis mot d'Annie, que tu m'as rendu mon âme. Donc, ça veut dire qu'Hachem, il te fait confiance que tu vas faire mieux aujourd'hui. Et il te donne ce jour de plus pour faire mieux.
Attends, Nahon, c'est pas seulement ça. C'est que c'est vrai que des fois, tu as des soucis, tu as des problèmes qui stagnent.
Bah oui, c'est ça.
Steph, je vais t'expliquer. Ça, c'est la citra rara. C'est ça, justement. Les mauvaises, les forces incultes, occultes, comme ça, ouais. La citra rara, c'est les forces du mal, merci. La citra rara, c'est ça ce qu'elle veut te faire. Elle veut te faire croire, regarde, c'est toujours les mêmes histoires, t'as toujours les mêmes problèmes. Regarde, le problème, il est toujours là, il s'est pas résolu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que Hachem, mais Hachem, il travaille 24-24 pour toi. Hachem, il organise. Toi, tu vois pas. Parce que toi, justement, tu n'y crois pas. Parce que toi, tu sais pas les réparations qui se font pendant ce moment. Puisque tu n'es pas le maître du monde. Tu comprends ce que je veux te dire?
Oui, mais ça peut arriver à un drame, comme la petite Laura, qu'on prie, on prie, on prie, mais si demain, il est plus là.
Attends, et tu crois que quoi, la petite Laura? D'accord? Quoi? Mais toute cette filotte, tu crois que c'est rien?
Je sais pas, on va voir.
Non, mais on n'est pas encore dans le problème, c'est que tu ne peux rien faire.
Là, c'est pareil, la dernière fois, j'ai lu, ils te disent, si tu crois dans ta prière...
Attends, je vais te dire quelque chose, d'accord? Juste si Dieu veut... Jusqu'à 120 ans, et Bezrat Hashem, il aura une grande famille, si Dieu veut. Amen. D'accord. Mais moi, je vais te dire plus que ça, on va parler d'une autre personne, d'accord, qu'on ne connaît pas. Mais pour le cas similaire, l'essentiel, c'est quoi? C'est que cette personne, quand elle va se présenter devant Hashem, quel que soit le moment, elle va venir riche. Elle va venir avec... un tas de mitzvot, un tas de tfilot, elle va venir, si tu veux, habiller. Rappelle-toi ce qu'il te dit.
Mais je ne parle pas de la personne qui va aller...
Et Hachem, il donne les kochot, et Hachem...
Mais la personne qui va rester là et qui va souffrir...
C'est ça notre problème, c'est parce que nous, justement, on donne tellement d'importance à ce monde, on oublie qu'en réalité, il y a autre chose, et qu'ici, c'est juste une station. Tu comprends ce que je veux te dire?
Parce que quand t'es dans le problème, tu oublies.
Non, je pense que
non, mais la souffrance de la
famille, les émotions. Si on occulte nos émotions, donc on arrive à le traverser zen ce monde. Tu vois,
après, bien sûr qu'on a, bien sûr que tu as de la peine, mais quand tu te rappelles que ce monde n'est pas efker justement, qu'il y a un balabait, il y a un balabait, un patron.
Attends,
il y a un patron dans le monde. Tu comprends?
Non, mais moi, tout ça, c'est parce que moi, je suis concernée.
Mais on est tous concernés. Est-ce qu'on n'a pas perdu un être cher? Qui n'a pas perdu un être cher dans sa vie?
Yael, tu peux raconter l'histoire de Ravenou qui a perdu lui aussi des enfants? Comment sa souffrance? Parce que quand tu lis le livre de Ravenou, il te dit que lui aussi a perdu des enfants.
Quand tu as lu le livre...
Ta vie, elle est plus pareille. Le livre Ravenou. Ils sont là, les tiens. Donc, attends, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes une chose. Si tu oublies... Attendez, les filles, venez, on ne se perd pas parce que ce serait dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Si tu oublies, d'accord, qu'il y a un patron dans ce monde, mais tu sais, en réalité, moi, je te dis, venez, on se munit tous d'un flingue. Et chacun qui nous énerve ou qu'on a l'impression qu'il nous a volé ou qu'il nous a fait un truc, mais on l'abat tout de suite. Tu t'abats toi-même justement comment? C'est parce que justement tu as tes mauvaises pensées qui t'attrapent, tu comprends? Et c'est là où tu deviens efker, où tu deviens justement abandonné. Alors regarde ce qu'il te dit comme ça. Il te dit, il se trouve donc en réalité... Celui qui ne suit pas les voies d'Hachem, c'est lui le véritable abandonné. car il n'y a pas de plus grande capitulation que de délaisser la vie éternelle et le bien authentique et durable pour un court moment de plaisir en ce monde matériel qui est comme une ombre passagère et dont tous les agréments sont infectés, d'accord, d'amertume et de colère, de deuil et de douleur. Parce que si tu regardes bien ce monde, d'accord, même que tu dis il y a eu des plaisirs, il y a eu des machins et tout, mais autour, combien tu les as payés ces plaisirs ? Combien tu as crevé pour avoir un truc, d'accord ? Donc il te dit, il n'y a pas un plus grand abandonné que celui-ci, que cet homme qui va abandonner, d'accord, la Torah, qui va abandonner Hachem, Chas v'Shalom.
Un jour, on a dit dans un des cours qu'on ne sait pas si on est en enfer dans ce monde-ci.
C'est ça, c'est cette Torah-là. Attends.
Comme la carotte, hein, je retiens bien.
Non, mais non, mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je vais te dire une chose. J'en suis revenue. Je suis venue à la conclusion que je crois que nous sommes en enfer, d'accord, à partir du moment où on n'est pas attaché au patron de ce monde. Parce que cette vie, elle est amère. Il te dit, elle est infecte d'amertume, de colère, de deuil, de douleur. Et il n'existe pas un seul homme. Il n'existe pas un seul homme. Il reprend un peu cette Torah.
Mais comment il peut dire ça alors qu'il dit qu'il faut qu'on soit constamment dans la joie ?
Attends, deux secondes.
Le bonheur.
Attends, deux secondes. Il n'existe pas un seul homme qui, poursuivant ce monde-ci, ça veut dire qu'il va poursuivre ce Olam Hazeh, comme il te dit dans la Torah, d'accord ? Il n'y a pas un seul homme qui va courir derrière ce monde-ci, d'accord ? Et qui en ait tiré la moindre satisfaction. Car toute son existence n'est que mécontentement et douleur. Dans un monde empli de blessures, d'ennuis, de souffrances, d'inquiétudes et d'amertume, à chaque instant, comme cela a été développé aussi dans les écrits du Shlach Kadosh, ça veut dire tout le monde te le dira. Si ce monde, d'accord, si tu vis dans ce monde, en te disant, attends, il n'y a que ce monde qui existe, et je vais mettre toute ma tête dans ce monde, donc tu mets ta tête dans ce qu'on appelle le tafel, d'accord ? Tu mets le monde dans le tafel. Le tafel, c'est l'éphémère. Il y a l'essentiel et l'éphémère. Ouais. Tu mets le monde dans l'éphémère. Ça veut dire que tu es passé à côté. Et donc, tu vas vivre une vie très amère. Mais si maintenant, tu viens et tu dis, regarde, je vais vivre cette vie. Parce que la vie, on va la vivre de toutes les façons. D'accord ? Avec tout ce qui est autour de nous. Mais je ne lâche pas Hachem. J'oublie pas que ce que je passe ici, d'accord ? C'est une étape. Ça veut dire, c'est un tremplin pour une vie éternelle. Donc en réalité, tu ne peux que garder de la simcha. Parce que tu comprends que ce monde-ci, Béhémeth, c'est rien, ça passe. Tu vois, comme une ombre, il n'y a rien. C'est vrai, quand on a 20 ans, mais quand tu arrives à un certain âge, tu vois, 50 ans, 60 ans, 40 ans, tu te dis, mais c'est passé tellement vite. Ouais. Tellement vite, Hachem, c'est... Je sais pas, moi j'ai l'impression que, tu vois, si je me retourne hier, j'étais encore à l'école.
Et le monde futur, on en parle, mais en réalité, c'est ce qu'on nous a inculqué de toujours, mais on n'en sait rien.
Ah, Aïn Lorata,
Nachon. Oui, donc en réalité, ok, on se persuade qu'ici on n'est que le passage pour un monde meilleur, mais avec toujours ce truc en nous de nous dire, mais c'est quoi ce monde meilleur en vrai ? On ne connaît pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous dire, il n'y a rien de meilleur là-haut. Là, quand même si on y croit, parce qu'on a cette émouna de Dieu. Et qu'on l'a inculqué depuis tout le temps.
C'est
aujourd'hui, on se sent vivant ici.
Attends, c'est que grâce à ça, c'est comme l'histoire du Mashiach. Ça veut dire, c'est une notion qu'on nous a inculquée. Mais ne crois pas que c'est nos parents qui nous l'ont inculquée, même si tu crois que c'est eux qui nous l'ont dit. Ça, c'est ce que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est eux qui nous ont, tu vois, Sarah là, qui nous ont donné ça, c'est dans notre ADN. Mashiach, c'est dans notre ADN. Croire qu'il y a un monde futur, c'est dans notre ADN. Tu comprends ? On y croit. Celui qui n'y croit pas, justement, il n'y a pas un plus grand efker que ça.
Mais on peut quand même chercher le bonheur ici.
Mais le bonheur, mamie, ne peut s'acquérir qu'à partir du moment où tu acceptes le matsouï. Tant que le matsouï, c'est la réalité d'Hachem te fait vivre ici. Parce que tant que tu vas vivre avec ton ratsouï, mais tu vas te tuer, tu vas être dans une vie où tu n'auras que de l'amertume. C'est quoi le ratsouï ? C'est ce que moi, je veux. Il y a le ratsouï, il y a le matsouï. Tant que tu cours après ton ratsouï, c'est ça, ça veut dire tu cours, mais tu ne vas jamais atteindre ton but. Parce qu'il y aura toujours des trucs, il y aura toujours quelque chose. Tu comprends ce que je veux te dire ?
En fait, il y a ce que toi, tu veux, ce que Hachem veut pour toi.
Il y a le ratsouille, c'est ce que je veux. Le matsouille, c'est ce qu'Hachem, c'est ce que je vis maintenant, c'est ce qu'Hachem y veut. Et il n'y a pas un plus grand bonheur que de vivre avec. Attends, il n'y a pas un plus grand bonheur que de vivre l'instant présent en te disant ça, c'est le ratsouille d'Hachem. Parce que tu es venu dans ce monde, d'accord, pour glorifier Hachem. Selon son ratsouille à lui, selon ce que lui veut. C'est, sinon, tu comprends, c'est trop simple de dire j'ai glorifié Hachem, j'ai une vie extraordinaire. Ça veut dire, entre guillemets, je ne sais pas si ça existe, pas de problème. Tu comprends ?
Je peux donner un exemple concret, c'est quand tu maries tes enfants. Allez, tu vas marier ta vie et tu imagines ton genre comme toi tu veux.
Tu vas crever, ça veut dire.
T'as compris?
Le gendre ou la belle-fille, hein, c'est pareil.
Alors,
on a les deux, alors on peut parler.
Donc voilà, regardez, je donnais l'exemple de Matsui et Ratsui. Je donnais l'exemple de... Nous, on a des enfants. Voilà, j'ai ma fille, je dois marier ma fille. Maintenant, elle me ramène un homme. Alors il est petit, il est truc, il est dingue, j'aime pas. Moi je vois autre chose pour ma fille. T'as compris?
Elle a un
sentiment. Et elle, elle voit autre chose pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement. Et moi, c'est pas moi qui marie avec lui, c'est ma fille qui se marie. Mais c'est comme pour le travail,
c'est comme quand tu as un enfant. On veut tous avoir des enfants magnifiques. Et puis Hachem, il te donne un enfant qui est un peu bizarre, un peu spécial. Voilà. C'est difficile, voilà. Tu comprends? Mais ça, c'est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux faire?
Mais quand tu fais une bodédou, tu lui demandes ton ratsouille.
Tu fais ce que tu veux quand tu fais une bodédou. Tu es libre. Tu es libre. Regarde, Michel.
Tu peux lui demander le ratsouille.
Michel,
le
ratsouille,
le
tu es libre.
Soyons honnêtes.
Il dit, Michel, tu es libre de demander ce que tu veux à Hachem. Ça, c'est ce que tu voudrais. Après, tu es d'accord qu'il y a le matsui, ça veut dire c'est ce qu'Hachem y veut. Moi, je dois m'adapter à ce qu'Hachem y veut. Sinon, je vais être malheureuse toute ma vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu sais, c'est comme un homme. Un homme, il vient vers une femme et il veut lui parler. Il veut lui faire une... Tu vois, lui parler. Bon.
Il veut la draguer.
Ouais. Bon, si un homme, par exemple, il vient pour demander la main à une jeune fille, d'accord? Ou un homme, il vient pour faire shalom bayit avec sa femme. Maintenant, elle s'est fait tout un film dans sa tête. Je veux qu'il me dise ça, il va me dire ça, ça, ça. Et en plus, tu fais des... Toutes, nous, les femmes, parce que... Voilà, nous, on fait toutes sortes de gestes et de trucs et de machins. Et on va le mettre dans une situation parce que nous, on veut les contrôler à 100%. Et bassof, il vient et là, tu vois, c'est horrible. Il t'a dit, mais aucun rapport. Et tu dis, mais à ce point, il est brel, le type, c'est pas possible. J'ai tout fait, je lui ai tracé le chemin pour qu'il parte. Et il a fait un truc à côté. Eh ben, si toi, tu veux être dans le contrôle et que tu veux absolument ton ratsouille à toi, tu vas être très déçu. Alors que si tu dis, bon, écoute, c'est ce qu'il est capable. C'est la volonté d'Hachem. Alors, je dois accepter la volonté d'Hachem dans ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, regarde ce qu'il te dit. Donc, il te dit, ce monde-ci, c'est... Voilà. Et bien sûr, il n'existe pas de plus grand bienfait pour l'homme que de s'empresser sans cesse vers la recherche de la finalité authentique. La finalité éternelle, celle de servir constamment Hachem, de s'écarter du mal et de faire le bien. Ce qui correspond au bien véritable, celui qui dure pour l'éternité. Alors là, Bémet, qu'on peut vraiment se... Ça veut dire, si on essaye de comprendre, regarde, on nous dit comme ça que quand il y a eu Adam et Chava et qu'ils ont fait la faute, alors il y a eu ce qu'on appelle une brisure. Ça veut dire le monde, c'est comme si je te dis, le monde il s'est éclaté, d'accord? Et il y a eu plein... C'est un verre que tu écailles, il y a plein de petits morceaux de verre qui sont tombés maintenant partout. Et ça a été, il y en a qui sont partis aussi, ça veut dire, d'accord, du côté des forces incultes, occultes, la citrahara. Comment on a dit ça, les forces du mal. D'accord, c'est parti, ça veut dire dans les forces du mal. Donc, Bémet, qu'il y a un problème aujourd'hui, d'accord, depuis cette histoire qui perdure, c'est que le bien et le mal, maintenant, ils sont ensemble, ils sont mélangés.
On
ne
sait plus qu'est-ce que c'est le bien.
Voilà.
C'est le
mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très dur, d'accord, de venir et de dire je vais faire la séparation du bien et du mal. Donc nous on a cette volonté de vouloir faire. D'accord ? On cherche donc la finalité et on cherche Bémet. Et on va essayer Bémet de chercher comment on va s'écarter du bien et du mal. Mais Bémet, si tu réfléchis bien, tu peux pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que le bien, le mal, quand il a récupéré le bien, eh ben du coup, lui, maintenant, il prend des allures de bien aussi. Donc ça veut dire que la limite, d'accord, entre le bien et le pas bien, elle est très fine. Par exemple, regarde, on va essayer de prendre des notions, d'accord ? Quand Rabbeinu, il te dit, il faut que tu aies un cœur brisé, mais attention de pas de tomber dans la tristesse. C'est fin comme un cheveu, un cœur brisé et la tristesse. D'accord ? Quand, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme autre notion ?
Mais
ce que je veux dire, c'est que le cœur brisé, c'est une notion qui est... On doit arriver à ça, mais c'est une notion qui est très difficile à atteindre. Tu comprends ? C'est très dur à atteindre, le cœur brisé. T'as cette notion, si tu veux, où quelque part, tu t'aperçois combien tu as à éloigner d'Hachem. Mais attention de ne pas tomber non plus dans la tristesse. Ah, comment je vais faire ? Tu comprends ? Ça veut dire, quand Bémet, tu sens que tu es éloigné d'Hachem, quelque part, tu as aussi une simcha, que tu es consciente de cet éloignement. Tu aurais pu ne pas être consciente. Tu comprends ? C'est très fin. Et donc, ça, c'est dans toutes les notions. Ce qui veut dire que...
Si tu sens ça, c'est que tu n'es pas éloigné.
Justement. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, quelque part, tu vois, ça peut... Mais tu peux aussi, d'accord ? Sombrer dans la dépression de dire je suis trop loin, regarde ma vie, elle est nulle quoi, il n'y a rien, j'ai rien fait, parce que ton dimion, d'accord, ton imagination qui est ton yetzer hara, il peut venir te raconter une salade, il te prend ta vie, te la noircit en 2 minutes, tu comprends, donc c'est très fin ça, et il te dit comme ça que si Bémet maintenant tu oublies ces notions, alors tu peux tomber très vite dans les forces du mal. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même si toi, dans ta tête et dans tes yeux, tu crois que c'est noir, regarde blanc. Parce qu'il te dit, quoi qu'il arrive, reste besimcha. Parce qu'en réalité, toi, de toutes les façons, tu ne peux pas comprendre. Les voies d'Hachem, tu ne peux pas les comprendre. Et ton esprit ne peut pas non plus comprendre que la voie d'Hachem, c'est de te mettre dans du noir. Tu ne peux pas comprendre ? Ben oui.
Pourquoi ? Que c'est une volonté d'Hachem d'avoir ces problèmes, on verra bien.
Attends. La voie, regarde. Ça veut dire que Hachem, Hachem, il va. Hachem, regarde. Hachem, il nous fait passer par des vies. Voilà, la vie, le monde. Regarde l'histoire du monde. D'accord ? Alors, ça, c'est difficile pour un homme de dire ben, c'était aussi une volonté d'Hachem. C'était du noir, tu comprends ? Pour toi, c'est du noir. Mais il faut que tu acceptes que ce noir, en réalité, c'est pas du noir. C'est du blanc, mais tu le vois pas. C'est très difficile. Tu comprends ? Ça veut dire qu'en réalité, si tu veux, tout dépendra de ta vision. Ta vision, elle dépend de quoi ? De ta connaissance d'Hachem. Si tu as une connaissance d'Hachem, ta vision, elle va s'éclaircir de plus en plus. Mais si tu n'as pas le da'at, ce qu'il appelle Rabbeinu le da'at, la connaissance, d'accord ? Si tu n'as pas le da'at, tu vas vivre toute ta vie dans l'amertume. Parce que, est-ce que ça existe, un long fleuve tranquille ? Ça n'existe pas. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a la mort, il y a le truc. Donc tu peux, si tu regardes bien, d'accord ? Tu peux sombrer tout de suite. Soit tu es dans le Gan Eden, soit tu es dans le Gehinnom. C'est un fil. C'est très fin. C'est à toi de choisir. Et comme il a dit Rabbeinu, tu peux, dans ce monde-ci, d'accord ? Il te dit, c'est à toi de choisir en réalité si tu veux être dans le Gan Eden ou dans le Gehinnom. C'est-à-dire que tu peux vivre ton enfer ici, si tu n'as pas le Da'at. Parce que, est-ce que Bémet, quand tu n'as pas le Da'at...
On peut avoir le vrai Da'at, parce que notre imagination
j'arrive. J'arrive à ça, je vais y arriver. Donc, si tu as le Da'at véritable, et je ne dis pas véritable Stam, ça veut dire, je ne te dis pas le mot véritable parce que j'ai envie de te le dire. Si tu as le Da'at véritable, le Da'at du tzaddik, qu'il n'y a que le tzaddik qui a ce Da'at, si tu t'accroches au Da'at du tzaddik, alors Bémet, que Rabbeinu, il te dit que tu peux vivre dans ce monde-ci, d'accord, comme si tu étais au Gan Eden. Parce que si tu n'as pas le Da'at du tzaddik, ta vie, en réalité, c'est un enfer. Regarde bien, regarde autour de nous. Comme il t'a dit ici, tu cours, tu t'énerves, tu t'attrapes, tu t'angoisses, tu fais. Pourquoi ? Parce que toi, tu crois que tu es le patron de ta vie. Tu crois que c'est toi qui dirige ta vie. Alors, c'est sûr que tu vas t'attraper des crises de nerfs. Et aussi, combien tu vas culpabiliser ? Combien tu vas t'en vouloir ? Combien tu vas te voir noir ? Parce que comment toi, ton propre balabait, ton propre patron, tu vois, tu as pu te tromper. Comment tu as pu faire des choses tordues? Prends ta vie. Combien de fois tu as fait des choses, ce n'était pas ça. Mais le Da'at Amiti, qu'est-ce qu'il te montre? Ça, c'était Hachem. C'est comme ça qu'Hachem, il a voulu. Seulement, comme toi, tu n'as pas le Da'at, alors tu vois la chose comme un échec. Mais il n'y a pas d'échec. C'est comme les chutes. D'accord, Rabbeinu, il te dit, la chute... C'est un tremplin. Tu chutes parce qu'il faut remonter automatiquement. Si tu es une orgueilleuse et que tu ne vas pas accepter la chute parce que comment moi j'ai pu chuter, comment moi j'ai pu me tromper, c'est sûr que ta vie, ça va devenir donc un enfer. Mais si maintenant tu comprends que ta propre chute, elle a été voulue par Hachem, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est Hachem qui t'a mis dans le noir parce que pour toi, c'est du noir. Mais en réalité, cette chute-là, c'était parce que tu devais arriver autre part. Et tu étais obligé de passer par ça.
Dans un drame, il me faut quelques temps pour remonter.
Il y a des mois.
Plus tu as.
Dans un drame, il y a des mois.
Attends, plus tu as du Da'at, Michel, plus le drame, il va se rapetissir. Par contre, moins tu as du Da'at et plus ton drame, il va prendre de l'ampleur jusqu'à en arriver un dépressif que Dieu préserve.
Dans ces cas-là, ça veut dire le bitachon en réalité.
Quoi ?
Le Da'at, c'est le bitachon.
C'est une confiance totale. C'est une confiance totale en Akadosh Baruch Hu.
Donc alors, c'est la relation des mots.
Attends. Elle veut se dédouaner. Attends. Là, on n'est pas responsable de nos fautes. Attends deux secondes. Attends deux secondes, je sais, mais attends, viens, on rentre pas là-dedans, parce que sinon on va pas finir. Attends. Si maintenant, c'est ça. Attends, c'est ça qui te dit ici, Rabbeinu. Ça veut dire que si toi maintenant, le Efker, c'est quoi? C'est je m'en fous. Tu comprends? Mais on n'est pas des Efkerim. Ça veut dire que justement, je m'attache à Hachem, je m'attache, mais si je m'attache à Hachem, véritablement, je recherche Hachem véritablement, qu'est-ce que ça peut me faire d'être là ou là? Mais je ne suis pas en train de dire, bon, bah, tu sais quoi, je m'en fous, allez, vas-y, emmène les avérotes.
On peut dire que tant que tu attaches à Hachem, c'est comme si Hachem, je m'en fous, il te laisse le temps de faire ton chemin parce que lui-même il fait passer dans le chemin.
Tu dois rechercher Hachem à chaque instant de ta vie.
On doit lui demander de l'aide. Par exemple, comme je te disais pour le Mazgan, j'arrivais pas le Mazgan, mais je touchais, je m'en foutais. J'étais en esquire, oh c'est bon, c'est que le Mazgan, on est d'accord, c'est ça? Et le jour où j'ai pris conscience, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je m'en fous pas. Donc je demandais à Hachem de m'aider à ne pas toucher la... Mais même si je la touchais, c'était pas vraiment une faute. Parce que
j'aime
justement
rejeter
à
Hachem.
Attention, c'est ça. Attention. C'est ça le danger. C'est ça le danger.
Attends.
Le danger, il est là justement. tu vois, c'est que, tu sais, c'est comme il a dit Rabbeinu, tu peux prendre mon date et tu peux l'interpréter comme tu veux, mais il t'a prévenu, parce que Benoît, on peut s'envoler très haut, mais il t'a prévenu à l'avance, Rabbeinu, il te dit, mais attention, tu ne dois pas bouger des quatre amotes de la halakha. C'est-à-dire qu'il y a une halakha, et on se doit d'étudier la halakha. On se doit d'étudier justement les lois, parce que si tu n'étudies pas les lois, eh ben, t'es efker.
Oui, mais quand les lois, c'est trop dur pour toi.
Alors ça veut dire que tu t'es abandonné toi-même.
Non,
ça veut dire, moi, je suis pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Parce que tu crois pas en toi.
Non, parce qu'Hachem, il m'a fait naître dans une autre famille. C'était plus traditionnaliste et c'était plus difficile. Alors moi, je lui demande de l'aide à la Kadosh Baruch Hu. Je prends conscience du truc, là, la voile est là, tu feras pas ça. Mais je suis pas capable de tout ça.
Non. Assure de dire je suis pas capable.
Attends. Et quand on a reçu la Torah avec tous les mitzvot, etc., tu nous as dit le peuple l'a reçu, c'était beaucoup pour nous.
Attends.
Alors c'est pas que je suis pas capable, c'est beaucoup pour moi.
Attends.
Voilà.
Je suis capable et je veux.
Non mais ça c'est.
Attends. Je suis capable. Regarde. Attends. Je suis capable. Quand tu dis je suis pas capable. Ça veut dire que tu as fait un abandon, ça veut dire que tu as capitulé d'office, tu dis je ne suis pas capable.
Non, parce que j'ai abandonné.
Attends, mais si maintenant, non, je veux tout, et tout, tu sais quoi, viens, on va parler honnête, d'accord. Si maintenant, d'accord, je prends, je ne sais pas moi, de l'argent, des diamants, je suis venue avec un sac et je fais aller tonner. Je veux vous voir, vous allez dire, ah j'ai mal au dos, je ne suis pas capable. En deux secondes, tout le monde va se lever. J'abandonnerai même pas un chèque. T'es même capable de donner un coup de poing à ta copine pour qu'elle tombe et que tu prennes le reste. D'accord? Alors, mais oui, c'est la vraie vérité. Donc, dire je suis pas capable,
non, je dis pas
ça veut dire que tu t'as. C'est ça.
C'est beaucoup.
Attends, je veux. Attends, je veux tout. Je veux. Je veux tout.
Et pourquoi je fais pas?
Et je vais aspirer. Écoute, je veux tout et je vais aspirer à tout. Écoute ce que dit. Écoute, je veux tout et je vais aspirer à tout. Après, ça c'est ce que je veux vraiment. Après, c'est comment Hachem il va me donner? Comment Hachem il va faire? Parce que.
Mais,
oui, mais si tu viens et tu dis non, mais tu sais quoi, regarde, là je suis pas capable, là je peux pas. Alors en réalité, tu vas rester une menteuse toute ta vie. C'est pas possible, tu peux pas rester menteuse toute ta vie. Tu dis, je veux, je suis capable. Parce que, écoute une chose. Ça n'existe pas, d'accord? La Torah, quand Hachem il nous a donné la Torah, il n'y a rien d'impossible. Ne croyez pas qu'Hachem, c'est un... Allez-nous, d'accord, quelqu'un de pervers, narcissique, ou de vicieux, ou de... Attends, Hachem, il ne t'a pas demandé un truc. Je vous ramène cette petite histoire très rapide. Je voulais vous en lire une autre aussi. Mais... Bon, on va la lire. Écoutez cette histoire. C'est aussi Rabbeinu qui l'a racontée. Il était une fois un roi astrologue. Un jour, voici ce qu'il vit dans les étoiles. Cette année, il faudrait amasser la récolte avant une date déterminée, sinon elle se gâterait. Le délai était très court. Les conseillers du roi examinèrent la question et décrétèrent qu'il fallait employer de vrais agriculteurs et leur assurer les meilleures conditions de travail. On satisferait à tous leurs besoins, tandis que jour et nuit, ils s'activeraient afin de sauver la récolte. Or, les ouvriers se mirent à profiter de tous les plaisirs concédés par le roi, mais finirent par oublier leurs tâches. Le délai fut dépassé, la récolte pourrit. Les ouvriers ne surent que faire, car la colère du roi leur semblait terrible. Alors, un sage apparut à ces hommes et leur offrit un conseil. Le roi commença-t-il, est fasciné par un oiseau d'une grande rareté. Celui qui livrera cet extraordinaire volatile au roi lui procurera un tel bien-être et un tel plaisir qu'il leur pardonnera tout ce qu'ils ont fait. Capturer cet oiseau est une chose très difficile, car il se tient sur un arbre immense. Avant que l'un des ouvriers puisse parvenir à son sommet, le roi sera déjà là, constatant leur échec. Par ailleurs, il n'existe pas d'échelle suffisamment haute pour atteindre l'oiseau. Le sage leur donna un nouveau conseil. Puisqu'ils sont si nombreux, ils monteront l'un sur l'autre et atteindront ainsi le volatile. Il n'en fallut pas davantage pour qu'une dispute éclate, car chacun voulait être au-dessus de son prochain, tandis que sur la terre, ces hommes polémiquaient, l'oiseau déploya ses ailes et s'envola. Il ne leur resta donc en partage plus que la colère du roi, qui s'était enflammée lorsqu'il découvrit leur négligence et ce qu'elle avait entraîné pour la récolte. Voici comment on doit saisir cette parabole. Dieu béni soit-il a créé l'homme et l'a gratifié de tout le bien et de tous les plaisirs afin qu'il rassemble ses récoltes spirituelles, qu'il ne laisse pas son âme se dégrader et qu'il le serve avec un intellect pur. Cependant, l'homme se corrompt en oubliant sa tâche. Il oublie dans sa récolte, il échoue dans sa récolte et ses péchés, souille alors son esprit, Chas v'Shalom. Toutefois, un espoir subsiste encore grâce à l'oiseau de l'histoire qui incarne en fait le tzaddik authentique sur lequel repose tout l'univers, d'accord, le tzaddik et Sod Olam. Par son intermédiaire, tout aurait été pardonné aux ouvriers. Donc il fallait juste qu'ils attrapent cet oiseau, qu'ils s'attachent à lui. Malheureusement, il existe des discordes et de la jalousie et chacun voudrait être supérieur à son prochain et l'on s'égare. À cause de ces conflits, on ne s'attache pas et on ne se rapproche pas du tzaddik authentique. Cette explication devrait suffire à l'homme capable de comprendre. Ça veut dire que si Béhémet, d'accord, tu viens toi et tu crois que en toi, bien sûr tu vas dire je suis pas capable. Mais si maintenant Béhémet, tu dis je veux la Torah, je veux les mitzvot, moi je veux tout. Mais je suis consciente que je suis née dans une famille X, je suis consciente de mes tavot, je suis consciente de tout, d'accord ? Et que je comprends qu'il y a un tzaddik dans le monde, d'accord ? Qui est venu et que c'est comme si que il nous a fait, tu sais quoi, il nous a tracé un chemin avec des petits pointillés. C'est tellement fin que tu peux te perdre. Ça veut dire que tu peux aller ou dans l'endroit du pas bon, ou justement dans le bon. Plus tu vas t'attacher au tzaddik, et plus tu vas sentir comme si tu avais des ailes. Oui, tu es capable. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, il te donne justement cette force de croire en toi, parce que lui, il va te donner le chemin simple. C'est quoi le chemin simple ? Je veux la Torah. Je veux les mitzvot. Et j'accepte qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est lui le balabait. Quand tu acceptes qu'il y a un Dieu sur terre et que c'est lui le balabait, tu acceptes donc qu'il y a mon ratsoui et il y a un matsoui. Tu comprends comment tu peux faire toute la Torah et les mitzvot ? Rien que je veux la Torah, je veux les mitzvot. Après, c'est chacun. Comment Hachem, il va décider ? Toi, il va décider d'une chose. Toi, il va décider d'une autre chose. Tu acceptes ce qu'Hachem, il veut pour toi. Tu ne mets pas de l'orgueil. Ça veut dire, tu ne vas pas venir dire, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. Et comment moi, tu m'as mis ici, moi ?
Je ne suis pas capable.
Non ! Ce qu'Hachem, là où tu me mets, comment tu me diriges, comment tu me fais. Mais chas v'shalom, d'en arriver à dire, bon alors, tu sais quoi ? Je m'abandonne moi-même, je m'en fous, je fais ce que je veux. Les Averroth, je m'en fiche. Mais attends, donc tu as un FKR complet, toi. Tu t'es abandonné tout seul. Tu peux pas.
Non.
Attends, oui.
Non, mais tu peux dire la Torah,
à son niveau, au fur et à mesure.
Non, si tu te dis ça, tu te limites. Attends.
En se disant qu'on va progresser.
Attends, écoute, comment tu t'appelles ? Evelyne, regarde. Regarde, si maintenant, sois Emmet, hein. Attention, si tu n'es pas Emmet, tu ne peux pas y arriver. Si tu dis, je veux la Torah, et que tu dis, mais je fais à mon niveau, mais toi, tu t'es dénigrée toute seule, parce que toi, tu te vois à niveau, moins quelque chose. Mais si tu te vois maintenant comme une star, et que tu es capable, mais de tout, il n'y a pas, je veux la Torah, mais le mais n'existe pas. Je veux la Torah. Je veux les mitzvot. Point. Hachem, c'est toi le maître du monde. C'est toi qui vas diriger le monde. Que tu me mettes là ou là, moi je veux. Je veux te servir, je veux te glorifier, parce que je suis venue dans ce monde que pour ça. Je te glorifierai en bas, d'accord ? Dans la galère, dans la poubelle, dans les puanteurs. Et je te glorifierai en haut, sans orgueil, parce que même en haut, je me rappelle que je suis encore très loin. Il n'y a pas de mais. T'as compris ?
Très bien. Mais, par exemple, il y a deux choses qui me tournent. La première, c'est que, ok, là où je suis, je dois servir Hachem. D'accord. Là où tu me mets, tu viens de le dire, je suis en haut, je suis en bas. Oui, mais quand tu es dans un milieu où on ne te suit pas, où toi tu veux, et que ton entourage autour, eh ben, ils sont fous complets, donc tu fais comment ?
Tu veux toujours.
D'accord. Et deuxièmement, la dernière fois, tu as dit, si je dois dire merci à Hachem que j'ai le mérite de faire le Shabbat, de faire ça. Donc en fait, c'est Aga de l'Orbo qui nous donne la possibilité de faire cette aura.
Non.
Alors donc c'est là que c'est le Matsouï.
C'est vrai, hein.
Bidjouk.
C'est vrai, hein.
Ça veut dire vraiment, de faire sa Torah ou pas. C'est son Matsouï.
Mais nous, on doit continuer de vouloir. Et puis ce qui nous donne à faire dans les mitzvot, on a que c'est ça. En fait.
Tu sais, je vais te dire une chose.
Chacun, il prévoit.
Quand on était dans les camps, parce que j'ai entendu ce que tu voulais dire dans ta pensée, déjà, j'ai compris. Quand on était dans les camps. Tu penses Bémet qui pouvait faire la Torah et les mitzvot ?
Il faisait ce qu'il pouvait, il était.
Il voulait.
Il voulait.
C'est une fois j'ai parlé avec quelqu'un qui était dans les camps. Elle me disait, je pouvais pas faire, mais je voulais et j'imaginais que je faisais. Elle a pas lâché. Tu comprends ? À aucun moment elle a lâché sa Torah. À aucun moment elle a lâché son identité d'Israël. Elle était juive à la vie à la mort. Ça, personne ne peut t'empêcher de vouloir. Tu vis dans un environnement hostile. C'est ce qu'Hachem, il a voulu. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'es pas tout le monde, il est d'accord ? Mais...
Alors, est-ce que tu peux me dire...
Comment t'expliques ce que Hachem a
voulu ? Bon, voilà. Si tu veux, prochaine fois. Parce que là aussi, j'ai... C'est pas lourd, mais c'est dommage. Attends, je veux finir. Attends, regarde. Donc, il te dit... Parce que c'est tellement joli, vraiment, ça serait dommage. Donc, il te dit comme ça, d'accord ? Il se trouve donc que celui qui n'accepte pas le joug de la Torah et des mitzvot est comme une créature abandonnée, car la providence divine s'en sépare. Tous peuvent le dominer. C'est-à-dire que quand on a dit que l'homme, il doit avoir un balabait. Donc, c'est où tu vas voir ton balabait, c'est Hachem, d'accord ? Qui va te cadrer, qui va te diriger avec sa Torah et mitzvot. Où ça va être ce monde ? Ce monde qui va donc te rendre une serpillière. Donc, comme nous le remarquons à l'époque du premier temple, lorsque Israël fautait, que les prophètes de l'époque prédirent au peuple entier qu'il sera abandonné et que les nations du monde les domineraient. Qu'est-ce qui a marqué dans Jérémie ? « Moi, dit l'Éternel, je vais proclamer contre vous la liberté du glaive. » Et Rachid de commenter, « Je ne suis plus votre maître, que vous serez abandonné au glaive. » Ainsi, en de nombreux versets, et qui s'apparentent à la destruction du temple, car à cause de leur faute, d'accord, l'Éternel abandonna le sanctuaire et des mains étrangères s'en saisirent. Ça veut dire que l'homme dans ce monde, il ne peut pas dire cette notion de dire « je suis libre ». C'est faux. Tu as un balabait. Ton balabait, ça va être Hachem. Ça peut être aussi ton... Ou alors, ça peut être... Ben, à l'époque, les Romains, les machins, les trucs, mais ça peut être aussi tes ta'avot, ton balabait. C'est quoi les ta'avot ? C'est les pulsions, les appétits. Ça veut dire, un, ça va être l'argent, l'autre, ça va être le sexe, l'autre, ça va être la bouffe, l'autre, ça va être sa colère. Chacun, il va être dominé par quelque chose. Donc, ou tu as la Torah qui va te cadrer et ça va être, ou alors, ça veut dire, tu vas être en réalité l'esclave de ce monde. Un jour ça, un jour ça, un jour ça. Car avant le don de la Torah, mais également, lorsque l'on abandonne la Torah, chas v'shalom, que l'on ne la pratique plus, chas v'shalom, alors le monde semble être un endroit abandonné, puisque sa principale condition d'existence dépend de la Torah et de la loi. C'est-à-dire que le monde entier, il a été créé, d'accord ? C'est-à-dire, comprenez que Hachem, quand il a créé le monde, ok ? Mais lui, tous les jours, comme un khatan qui attend sa fiancée, il attendait ce matin de Torah. D'accord ? C'est pour ça que je t'ai dit, on est très excités, parce que nous, maintenant, nos neshamot, elles attendent ce matin de Torah. On attend ça. Tu comprends ? C'est pas, on va se dire, on a mangé un gâteau au fromage, on a fait le truc, et on a eu la Torah. C'est pas ça. C'est on va mamache te retrouver devant le Arsinaï et nous aussi on va entendre l'école, les machins, la folie. Faut que tu le vives le truc, tu comprends? Parce que la vie et le monde ne tient pas, ne mérite même pas d'exister si t'as pas de Torah. Sinon tu vas être un esclave. Imen Torah, Enkemar, Vinem. Alors il te dit comme ça. Et Israël a mérité du monde entier et de ce qu'il contient grâce au don de la Torah. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il te dit ici? Regarde bien ce qu'il te dit. Et Israël, c'est toi, c'est moi, d'accord? A mérité du monde entier et de ce qu'il contient. Ça nous ramène à ces trucs. C'est-à-dire, Hachem, comme il y a marqué dans l'histoire, il nous a donné tout. Le roi, il nous a donné tout ce qu'il faut dans ce monde. D'accord? Tout! Grâce au don. Donc, il te dit, Hachem, il t'a donné donc tout ce qu'il contient, d'accord? Grâce au don de la Torah. C'est-à-dire que si Bémet, tu vas selon la Torah et les mitzvot, tu vas pouvoir Bémet profiter de ce monde et de tout ce qu'Hachem t'a donné. Pourquoi? Parce que tu as un da'at. Parce que tu as une proximité avec Hachem, parce que tu n'oublies pas que ici c'est tchik-tchak. Donc tu vas pas commencer à t'attraper des crises de nerfs et des pleurs et des trucs et tu vas envier celle-là parce qu'elle a une chaussure comme ça et l'autre elle a un sac comme ça et l'autre elle a une bague comme ça et l'autre elle a une maison comme ça et l'autre elle a un mari comme ça. S'en fout! On s'en fout! Toi tu es un monde entier à toi tout seul. L'autre en réalité il n'existe pas. Il n'y a rien, c'est du bidon tout ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il te dit... Israël a mérité du monde entier de ce qu'il contient grâce à la Torah. Tu ne peux Bémet mériter tout ça que grâce à la Torah. Et elle a été donnée où la Torah? Dans le désert. Pour qui? Pour Madame Stéphanie qui vient qui dit « Mais je suis pas capable, tu comprends, je viens d'une famille comme ça, je dis comme ça. » Le mot, la Torah, elle a été donnée dans un endroit où il y a rien. Ça veut dire c'est mort à la base. Il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas de fleurs, il n'y aura pas d'hôtel, il n'y aura pas de ce que tu veux. C'est mort. Il n'y a pas. C'est pas mort. En effet, si le désert est un endroit abandonné, c'est pour montrer qu'Israël a hérité du monde entier qui semblait délaissé grâce à la Torah, car avant son acceptation, toute la création était comparable à un désert abandonné. Tu comprends? Avant la Torah, le monde, eh ben, il ressemble à rien. Et toi maintenant, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qu'on a dit? Toi-même, t'es un monde. Donc, toi maintenant, si à partir de maintenant, tu n'acceptes pas la Torah, tu dois te dire, en réalité, je suis comparable à un désert abandonné. Ça veut dire, je ne suis pas capable. Il n'y a rien qui va sortir de moi. Il n'y a pas ces belles fleurs, ces belles couleurs, ces odeurs. Il n'y a rien qui sortira de moi parce que c'est mort. Je suis rien, je suis pas capable. Je suis petite, tu comprends, je me suis sous-estimée. Et Hachem, il te dit non, ça n'existe pas, ça. Parce que justement, tu crois qu'Hachem, il n'aurait pas pu transformer le désert en hôtel 5 étoiles et 1000 étoiles, s'il voulait même. En 2 secondes, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien pour lui, Hachem, il le fait tchik-tchak. Tu comprends? Dafka, il t'a mis dans le désert pour te dire, regarde, c'est là-bas où je te donne la Torah. Et je veux que tu saches que de là-bas, il peut tout sortir. Les couleurs, les odeurs, les fleurs, tout.
Il n'a pas fleuri le Mont Sinaï.
Tout.
C'est toi
qui vas organiser ton Mont Sinaï. C'est toi qui vas organiser le don de la Torah.
Moi, je suis une bonne élève. Arrête de faire croire.
Bezrat Hachem. À la semaine prochaine, si Dieu veut.